renouvelables,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
démocratie,
respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Délirium environnemental, l'essentiel des nouvelles de la semaine en environnement. Pour vous, cette semaine, eh bien, en première heure, revue de l'actualité, on vous parle entre autres des PPP de l'autoroute 25, payantes, polluantes et privées. On vous parle également de l'incompatibilité des mots Kyoto et Canada, des centrales au charbon qui polluent comme ça n'a pas de bon sens, des OGM qui pullulent, de l'eau des grands lacs qui fuient et beaucoup plus. En deuxième partie, cette semaine, on vous parle d'un nouveau livre à paraître qui fera du bruit, entre autres parce qu'il fait la lumière, ou plutôt pas mal d'ombre sur la belle industrie, ou la soi-disant belle industrie de l'eau embouteillée. Et finalement, on termine par nos classiques coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine. Eh bien, Patrick Bonnet au micro, désolé pour ceux qui l'attendaient impatiemment, Sofiane Legendre est en vacances, en congé cette semaine, écoutez, c'est fatigant de... Ben oui, il faut travailler quand même, mais c'est pas facile, fatigant d'aller à Radio-Canada des fois, ça vous scie les deux jambes. Mais quand même, en ce spécial testostérone, je suis bien encadré de Nicolas Mainville, chroniqueur étoile, ma foi, et Nicolas Milo, les deux autour de la table. Étienne Côté-Paluc à la régie, également au site web, si vous allez visiter notre site web au www.radiodelirium.net. Si vous le faites, je vous invite également à aller voir et à vous abonner à notre cyberlette qui vous permet justement d'avoir toutes les nouvelles dont on va traiter et des liens Internet. Donc, cette semaine, comme je vous l'ai annoncé, on va commencer immédiatement par une autre superbe nouvelle au niveau du Québec. Vous avez entendu parler des PPP. Eh bien, ça se concrétise après le baillon pour passer la loi sur la création de l'agence des PPP, le projet de loi 61 qu'on a passé juste avant Noël. Eh bien, on a un premier projet de 350 millions de dollars, une autoroute, l'autoroute 25. Et il paraît que c'est pas super intéressant comme projet, M. Milo. Pourquoi donc?
Ça faisait des semaines que j'attendais ce beau samedi matin où je pourrais prendre le temps de lire mon journal tranquille avec un bon café. Et il fallait que le ministre Mulcair choisisse la veille pour nous annoncer cette nouvelle horrible, le dis-je bien. Vous allez voir, c'est complètement... Bon, ça ne tient pas la route de A à Z, mais on récapitule.
On parle de ministre Mulcair, le ministre de l'Environnement, qui a fait une autre annonce horrible.
Vous savez, ces fameux PPP dont on vous a parlé tout l'automne, ces partenariats public-privé, eh bien, le premier de ces fameux PPP, devrait être le prolongement de l'autoroute 25. C'est un projet qui est sur la table depuis des années et qui devrait relier l'île de Laval au tronçon de la 25 qui existe déjà, qui est la sortie, dans le fond, du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, dans l'est de Montréal. Eh bien, ce projet-là, d'une valeur approximative de 350 millions à être partagé entre le public et le privé, dont on ne sait pas encore comment il sera partagé, eh bien, c'est complètement horrible dans le sens où ça va complètement à l'opposé, entre autres, des dernières déclarations du ministre Mulcair à l'entour de son fameux plan de développement durable. Un tronçon d'autoroute qui devrait, soi-disant, améliorer la fluidité du transport routier, bien entendu, à Montréal, mais surtout favoriser l'étalement urbain vers l'est de l'île, et surtout vers l'est de l'île Jésus, l'île de Laval, qui est très très peu développée dans ces coins-là. Donc, des arguments pour fusent de toutes parts, la fluidité, il faut désengorger la 13, la 15, on nous dit même que les automobiles dans les bouchons de circulation polluent nettement plus que des belles automobiles qui roulent beaucoup et qui roulent vite et qui ne s'arrêtent pas dans les bouchons. On veut développer économiquement l'est de Laval, mais par exemple, quand on se met à regarder tout ce qui peut être contre cette idée-là, mais c'est là que ça devient d'autant plus triste. Dans un moment où on a Kyoto qui cogne à notre porte, on se rappelle que le protocole de Kyoto devrait entrer en vigueur le 16 février prochain, eh bien, c'est un geste qui va complètement vers l'atteinte des objectifs de Kyoto. On se rappelle, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas en quoi l'ajout d'un tronçon routier dans une métropole comme celle de Montréal est néfaste, on vous avait rapporté une petite étude à l'automne dernier du Texas Transport Institute qui disait que tout nouvel ajout d'un tronçon routier important dans une métropole, eh bien, c'est sûr que dans l'année qui suit, améliore la fluidité, permet fait un transport facilité des automobiles dans une région, mais au bout d'un an, deux ans, il y a tellement une hausse de l'achalandage routier qu'on perd complètement les avantages qu'on avait. On crée une demande encore plus forte de l'utilisation d'automobiles et on revient avec une même situation problématique qu'on avait avant même qu'on ait créé le tronçon routier.
Et je crois que c'est important de rappeler ce chiffre-là qui est sorti cette semaine de 140 000 voitures supplémentaires par jour au centre-ville de Montréal. On sait qu'il y a énormément de problèmes de congestion présentement au centre-ville, aux heures de pointe et même durant toute la journée. Évidemment, ces automobiles-là, faut pas se le cacher, il y a le smog urbain qui va venir avec ça parce que ça crache de la fumée, c'est incroyable. Et on oublie également probablement tout projet de transport en commun si on investit dans l'idée de faire un pont.
Et ce qui est aussi problématique, c'est que, étant donné qu'on parle d'un partenariat public-privé, on s'entend qu'il y a une entreprise privée qui va vouloir faire de l'argent avec cette infrastructure-là. Et il y avait une source au ministère des Transports cette semaine qui disait qu'il n'y aura certainement pas de place pour un train sur rail sur l'infrastructure ou pour une piste cyclable parce que c'est des services gratuits. Donc, l'entreprise privée n'aurait aucun avantage à concéder un certain espace pour une utilisation commune, collective de l'espace qui va être créé comme ça. Donc, en même temps, quand on est dans la région de Montréal avec un problème toujours de pire en pire avec le transport en commun qui ne se développe pas, qui a de la misère à s'implanter, bien, c'est un projet qui va complètement à l'encontre.
Je pense qu'une des choses qui saute aux yeux, c'est qu'il faut qu'on apprenne de nos erreurs une fois pour toutes. Vous vous rappelez, lors de la construction de l'autoroute 13, qui était construite pour désengorger l'autoroute 15, l'autoroute des Laurentides, eh bien, on s'est retrouvé avec un problème d'engorgement assez rapidement. Maintenant, la 13, la 15, la 640, la 440, ils sont tous bloqués le matin. Lorsque ça va mal, ça prend juste un petit pépin pour que ça bloque. Comment qu'on peut continuer dans cette vision-là, puis se faire proposer par notre ministre de l'Environnement, qui est aussi député à Laval, mais bon, et d'entendre notre ministre de l'Environnement nous dire, écoutez, chaque matin, je vois les autoroutes bloquées, les autos qui avancent pas, et ça nous prend un nouveau lien entre Laval et Montréal. Ben justement, ça nous prend un nouveau lien entre Laval et Montréal, probablement. On est en train de construire le métro, premièrement. Je sais pas si c'est un fait qui avait passé à côté, mais bon, c'est quelque chose à mentionner. Mais aussi, pourquoi ne pas investir dans quelque chose de plus durable, notamment le train, le tramway, les trains de banlieue, c'est toutes des options qui existent.
Complètement. Et ce qui est d'autant plus, selon moi, paniquant, c'est entre autres, on parle d'émissions de gaz à effet de serre. On se souvient que 22% d'augmentation environ depuis 1990 des émissions de gaz à effet de serre proviennent du transport au Québec. C'est 38% des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Et c'est le ministre Mulcair, qui est député, on s'en souvient, à Laval, qui serait, entre autres, selon certaines fuites déclarations de d'autres députés de Laval, qui se serait une des priorités pour ce ministre-là, soit le ministre de l'Environnement. Donc, c'est extrêmement inquiétant et il y a beaucoup d'enjeux électoraux rattachés à tout cela. Entre autres, on parle de firmes d'ingénieurs et de gros argent qui se brasse dans le domaine des transports.
Oui, exactement. Puis on voit que le ministre Mulcair, on dirait, c'est pas vraiment où se placer entre son rôle de député. On se rappelle que les 6 députés de l'île de Laval sont des députés libéraux. Donc, il y a une certaine redevance politique là, qui est peut-être en jeu, une redevance face à l'électorat. Aussi, des entreprises qui subventionnent déjà le Parti libéral, donc on veut essayer de favoriser. Mais la déclaration de la semaine de la part du ministre Mulcair, selon moi, c'est hier sur les ondes de Radio-Canada où le ministre montée de lait merveilleuse contre les environnementalistes, où il disait « Les environnementalistes, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous n'avez même pas vu une ligne du projet et vous êtes déjà contre. » Mais c'est tout à fait normal qu'aussitôt qu'on parle d'un tronçon routier, que les environnementalistes soient contre et que la population aussi soit contre. Et on se rappelle qu'à même date l'année passée, un projet passait devant la population, le Suroît. On a vu la mobilisation qui s'est faite. Moi, j'espère que cette année 2005, ben, c'est une histoire qui se répète et que ça va être la 25 qui va être le cheval de bataille.
Complètement. Et je parlais d'enjeux électoraux. Oui, évidemment, il y a le provincial. Il y a également, au niveau de la ville de Montréal, des revendications, à savoir M. Tremblay, le maire de Montréal, prenez position. Au départ, vous disiez que vous étiez pour le transport en commun lors de votre premier mandat. Vous êtes prononcé justement contre le prolongement de la 25. Et bien là, présentement, M. Tremblay ne dit rien. Robert Perrault, du Conseil régional d'environnement de Montréal, qui est le président, relance M. Tremblay pour avoir des réponses. Justement, le groupement environnemental monte aux barricades. Stephen Guilbeault, de Greenpeace, a déclaré, écoutez, il va falloir me passer sur le corps avant de construire cette autoroute. Donc, on s'attend justement à de grosses manifestations, entre autres au mois de février, devant la ville de Montréal, devant le bureau du maire.
Peut-être une petite. Rapidement pour conclure, une déclaration qui, mon Dieu, laisse voir à quel point le concept de développement durable est en train de absolument pas s'ancrer dans le parti qui est au pouvoir. Monsieur Clermont, qui est un autre député à Laval, qui dit « L'affaire d'environnement, on va s'en occuper en février. » comme si l'environnement, c'était une espèce de mouche à marne qui colle les projets puis qu'il faut qu'on se débarrasse un moment donné. Alors, on voit absolument où se trouve la notion de développement durable dans cette partie-là.
L'affaire environnement.
4x4 dans un 4x4. Hey, toi, dans ton gros SUV. Dans ton suburban, t'es pas urban.
T'as-tu pas des nipples? C'est toi qui es crevé de boboule.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Yo, combien de millages tu fais au galon? Dans ton camion, t'as George Bush à s'acheter des canons. Tu nous emperces avec tes émissions, des particules en suspension. Hey champion, pense-moi un peu aux autres générations.
Hey yo, t'as payé une maladie dans les poumons. Ta femme est stressée dans un bouchon. Ton fils s'est fait frapper par un soulon dans un Yukon. Tu dois être plus gros que mon salon, gâteau vachon.
Alors comment ça se passe sur les routes là ce soir?
Eh bien oui, Jules. Même si le prix de l'essence a monté, nos autoroutes restent bloquées.
C'est quoi tu veux là? Bâtir des ponts? Des autoroutes en tronçon? T'es con, c'est pas une solution.
Le gouvernement ne donne pas d'option.
Restons.
Hey yo, j'ai des stats à l'appui, ça s'appelle du trafic induit.
Fait que j'espère qu'on s'est fait clair avec tous les propriétaires. C'est vous qui polluez la terre avec vos gaz à effet de serre.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Laisse ton camion à maison, mon frère.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Ça pas de bon sens, faut en parler au maire.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Laisse ton camion à maison, mon frère. Hey yo, pas ça.
Et pour tous ceux qui se posent la question, qui est ce magnifique DJ? Eh bien, c'est MC Climatique avec pas de 4x4 dans le 514. En fait, c'est une petite conception de notre collaborateur Hugo Lachapelle, qui n'est pas parmi nous, mais qui devrait être de retour la semaine prochaine. Et ben, il risque d'avoir d'autres succès comme ça, Hugo, qui est quand même assez intéressant. Donc, entre autres, Salon de l'Auto peut être annoncé cette semaine pendant qu'on parle d'automobile. Écoutez, de plus en plus, les hybrides sont présents. Si vous y allez, faites donc des petites remarques aux constructeurs et demandez-leur qu'est-ce qui arrive avec les véhicules hybrides dès que vous en voulez. Sinon, ben écoutez, l'hybride, on s'en va vers Kyoto parce que Kyoto est de l'avant. Kyoto s'en vient le 16 février. Kyoto va rentrer, devenir quelque chose de vrai. Après tant d'années d'attente, ça va devenir une loi, enfin internationale. Mais le Canada, lui, ne semble pas aller dans la bonne direction. Et il y a plusieurs articles qui sont sortis à cet effet cette semaine. Nous avons Nicolas Mainville qui va faire la lumière là-dessus.
Mais j'ai essayé de suivre un peu le tapage médiatique qui tourne autour de Kyoto. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce qui est extrêmement, je dirais, décourageant, c'est que pour la première fois, on entend dire que le Canada ne sera pas capable de rencontrer ses objectifs de Kyoto.
Même que ça fait quand même...
On n'a pas commencé encore. Hein. C'est le 16 février que ça rentre en branle. Et puis, c'est déjà dans les journaux. On ne sera pas capable. Puis... D'ailleurs, ce qui a fait le scoop cette semaine, c'est un mystérieux document qui a été découvert. En fait, Le Devoir et le Globe and Mail qui ont mis la main sur un document marqué secret. Et ce document-là disait, et en fait annonçait officiellement que les pressions sur l'industrie pour la réduction des gaz à effet de serre, vous savez, ces fameux gaz qui produisent les changements climatiques et les dérèglements du climat, eh bien, ces pressions sur l'industrie canadienne et surtout les gros pollueurs, c'est-à-dire l'industrie pétrolière, les manufacturiers et les centrales au charbon, les centrales thermiques pour produire l'électricité, eh bien, ces pressions-là pour réduire les émissions seraient beaucoup moindres que ce qu'on avait annoncé à la base en 2002 sous Chrétien.
Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que ce type de document-là, c'en est qui circule beaucoup entre les ministères avant d'être amené au cabinet des ministres pour être débattu et entériné ou refusé. Donc, ça n'est pas nécessairement... Il n'y a pas de force de politique, force de loi non plus, encore moins derrière ce document-là, mais ça illustre bien toutes les pressions de l'industrie sur les débats entourant Kyoto.
Donc, ce qu'on comprend, c'est justement c'est que le gouvernement qui était censé forcer les industries à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, parce qu'environ, je pense, 50% des émissions de gaz à effet de serre du Canada proviennent des industries, donc il forcerait les industries à réduire, mais à moins réduire que prévu au départ.
Exactement. Si vous voulez des chiffres, on parlait à la base, si, puisqu'on considère que ces industries industries-là émettent 50% des émissions, il faudrait qu'ils diminuent de 120 mégatonnes leurs émissions, OK?
Mégatonnes pour, étant des millions de tonnes.
Des millions de tonnes d'équivalent CO2, donc dioxyde de carbone. Sauf que Chrétien, en 2002, avait dit, bon, écoutez, on ne veut pas nuire à l'industrie, donc on va vous forcer à réduire de 73 mégatonnes et non pas 120 mégatonnes. Ce que Martin, le gouvernement Martin, est en train de faire, en fait, Ressources naturelles Canada et Environnement Canada sont en train de négocier, et c'est ce que ce document annonce, c'est qu'en fait, on parlerait plus de 25 mégatonnes. Donc, et non pas 73, mais bien 25. Et
par puis, rapport à 120.
Par rapport à 120. Et là, c'est là qu'on voit la game politique qui joue en arrière. Et puis, il y avait des très bons articles dans Le Devoir en fin de semaine sur la pression des lobbies, des personnes qui sont engagées par les compagnies, les diverses compagnies, que ce soit pétrolières, automobiles, de toutes les pans de l'industrie, qui vont vraiment aller à Ottawa faire des pressions sur les différents ministres concernés pour s'assurer que leurs intérêts sont bien défendus et que Kyoto ne va pas affecter la productivité. Je pense qu'un excellent exemple qui est sorti cette semaine, c'est le cas de l'industrie de l'acier. Je vous mentionne ça rapidement. Le ministère de l'industrie, ou en fait, excusez-moi, je ne me rappelle pas exactement quel ministre est allé négocier avec l'industrie de l'acier pour négocier combien qu'ils vont réduire de leurs émissions. Et puis, on s'est entendu sur un 15% de réduction d'émissions, mais ce 15% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre-là ne doit pas nuire à la productivité de l'industrie de l'acier. Donc, c'est sous condition que ça ne nuit pas à sa productivité. Donc, si l'industrie de l'acier canadienne est capable de prouver que les réductions de 15% de gaz à effet de serre nuisent à sa productivité, eh bien, ces réductions-là ne sont tout simplement pas applicables, ce qui est une vraie joke.
Ce qui est problématique, et c'est beaucoup ce que le mouvement environnemental, ou en fait, tous gens conscientisés par rapport au gaz à effet de serre, soulève, c'est que faut des lois, faut une législation qui va forcer ces industries-là, et non pas quelque chose de volontaire, comme on le fait présentement avec l'industrie de l'automobile, de leur dire, pouvez-vous, s'il vous plaît, essayer d'atteindre 25% de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre? Ah, ben, pas trop, je veux pas être méchant, mais OK, ben faites comme vous voulez. C'est vraiment ça qui se passe présentement.
Un autre petit exemple qui illustre à quel point le gouvernement fédéral est molette dans cette...
Molette.
C'est
une clé, ça.
C'est une clé molette ou une attitude de cul entre les jambes ou de tête dans le cul, si vous aimez mieux. Ottawa reconnaîtrait aux industriels 18 mégatonnes qui ne proviendraient pas de réductions concrètes, mais de recherche et développement en vue de réduire. Donc, vous avez un programme de recherche et développement pour réduire, mais on va vous créditer ce que ça pourrait éventuellement réduire. Et ce qui est encore plus intéressant, souvent, c'est que ces programmes-là, c'est le gouvernement fédéral lui-même qui investit pour les faire. Donc, on leur demande absolument rien.
Ce qui est incroyable. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut mentionner dans tout cet immense dossier Kyoto que vous allez, j'espère, suivre parce que c'est vraiment important de se garder au courant. Il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de bureaucratie, mais bon, on va faire un effort ici à Delirium pour essayer de vous garder au courant. La question de ce super nouveau marché des crédits de carbone qui est en train de se mettre en branle, vous savez que les pays qui ont ratifié Kyoto ont maintenant accès à ce marché de carbone où est-ce qu'on va pouvoir acheter des crédits. C'est-à-dire que des compagnies qui polluent trop et qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif de Kyoto fixé par le gouvernement vont pouvoir aller chercher des crédits partout dans le monde. Donc, aller voir d'autres compagnies, souvent dans les pays en voie de développement, et leur dire, écoutez, on achète des crédits de vos efforts pour réduire vos gaz à effet de serre.
Par exemple, une entreprise qui réduirait plus que le quota qu'on lui impose pourrait vendre ce surplus-là à une entreprise qui pollue davantage.
Exactement. Mais là, on a un beau cas ici au Canada. Il y a un accord qui s'est passé entre une compagnie qui produit de l'électricité dans l'Ouest canadien et une compagnie chilienne de production porcine. La compagnie de production porcine fait un effort pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, va mettre en fait juste des toiles par-dessus leur piscine à lisier pour émettre moins de méthane, donc réduisent de 400 000 tonnes de gaz à effet de serre, en fait d'équivalent gaz à effet de serre, ce qui représente un crédit de carbone qu'elles peuvent vendre sur le marché international du carbone. Le Canada est intéressé, achète les crédits de carbone directement à cette compagnie-là, et puis, bon, la compagnie canadienne se retrouve à atteindre 10% de ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Est-ce que vous voyez la game qui est en train de jouer avec les crédits de carbone? Donc, on facilite d'une certaine façon cette espèce de marché international et puis, on fait la promotion des industries de plus en plus vertes s'ils ont l'intérêt et s'ils ont l'intention à devenir vertes.
Complexe à première vue, hein? Je pense qu'on va prendre une petite pause là-dessus. Des tonnes. Vous êtes de retour à Délirium environnemental. Nous vous invitons à aller visiter notre site web au www.radiodelirium.net. Avant la petite pause, nous parlions de tonnes, de tonnes, de tonnes. Vous avez peut-être vu ce fameux défi une tonne. Je vous invite quand même à aller vérifier sur le site web défi une tonne. Vous pouvez passer le lien sur notre site internet. Et il y a énormément de conseils pour justement réduire ces émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est bien beau de voir les gros pollueurs qui ne font pas des efforts et de vouloir mettre de la pression pour que le gouvernement change, mais il faut également que nous fassions notre part. Une tonne, c'est vrai que c'est bizarre que le gouvernement nous demande de nous faire un effort quand il semble que les gros industriels ne le font pas, mais si on a les mains blanches, c'est plus facile de critiquer par la suite.
Ben, au contraire, en fait, du fait de voir que les grosses industries veulent même pas faire leurs efforts, je pense que ça va passer dans les efforts individuels. Une fois que tu es conscientisé puis tu passes à l'action dans ta maison, chez vous, tu t'en retrouves dans ton industrie puis tu as le goût que ton industrie a changé. Donc, je pense que c'est une conscientisation de masse qui s'impose.
Et que t'es positif. Mais l'énergie, quand même, ici, on la produit beaucoup par hydroélectricité au Québec. Et vous êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a énormément de centrales thermiques au charbon. Soit on produit de l'électricité avec du charbon à travers l'Amérique du Nord, et au point tel qu'on en fait des études pour savoir la quantité de pollution qui peut sortir de ces centrales-là. Et c'est assez épeurant, d'après ce que j'ai cru comprendre. Nicolas Mainville?
Grosse étude, mais en fait, je pense que Nicolas Milo, tu vas nous parler des chiffres de l'étude de la Commission de coopération environnementale de l'ALENA. Mais juste avant, juste pour mentionner le fameux document secret qui est sorti des coulisses de Ressources naturelles Canada, eh bien, on apprenait qu'une des stratégies du gouvernement canadien, ce sera d'utiliser le charbon propre pour atteindre ses objectifs de Kyoto. Le charbon propre, c'est comme dire de la...
C'est quoi, c'est du charbon monté en bas, ça? Ça marche pas, là.
Ouais, ou de la merde qui goûte bon, ou en tout cas, vous pouvez y aller comme vous voulez.
Les expressions,
ça... Oh, c'est du haut de gamme, là.
Ça ressemble à ta molette, un peu, hein? Mais bon... tout ça pour dire que le charbon propre, on est en train d'essayer de repousser les limites du possible en disant on va utiliser le charbon qu'on a arrêté d'utiliser il y a 20 ans parce que ça avait pas de bon sens, parce que c'était trop polluant, puis on va le rendre propre avec des technologies nouvelles.
Comment on fait ça?
C'est là la question. Alors, la première option, c'est que les émissions émises par la combustion du charbon vont se retrouver sous la terre avec l'injection sous la terre dans les anciennes nattes de pétrole.
Oh, la bonne idée!
On va aller séquestrer le carbone dans le sol. La deuxième solution, c'est la gazéification, c'est-à-dire qu'on va brûler le charbon à haute température pour qu'il augmente son efficacité énergétique et qu'il émette moins de polluants. C'est la suggestion de l'industrie du charbon en ce moment pour augmenter la crédibilité du charbon au point de vue environnemental. Ce qui est, selon moi, tout à fait...
Ça a travaillé, hein?
Ouais, donc, au lieu d'aller dans les énergies renouvelables qui ne s'épuisent pas et qui polluent moins que le charbon, on décide de faire ça au Canada, entre autres en Nouvelle-Écosse, je pense.
C'est incroyable.
Ouvre une nouvelle mine.
C'est une nouvelle mine. Vous savez, on annonçait l'année passée aux États-Unis 94 nouvelles centrales thermiques au charbon qui est en train de se construire, puisque le charbon est vraiment moins cher que le gaz naturel et le pétrole. Eh bien, au Canada, c'est 9 nouvelles mines en 2004, des mines de charbon qui se sont ouvertes. Ouh. Et il y en a une nouvelle cette semaine qui a été annoncée par le ministre de la Nouvelle-Écosse qui nous dit, on rouvre la mine attendez un petit peu, il faut que je trouve son nom, la mine de Duncan en Nouvelle-Écosse. Donc c'est le ministre John Hamm qui a annoncé cette mine qui avait été fermée il y a 20 ans, qui représente plus de 300 millions de tonnes de charbon. En fait, évidemment beaucoup d'argent, mais qui avait été fermée puisque le charbon n'était pas vraiment intéressant point de vue environnemental. Eh bien, on nous annonce qu'on la rouvre, et puis c'est présenté comme une bonne nouvelle, mesdames et messieurs, soyez heureux, nous sommes pas dans l'air Kyoto du tout, et puis on s'en va dans le charbon, c'est super le fun.
Pour tous ceux à la maison qui ne sont pas encore convaincus que le charbon, c'est peut-être pas la meilleure façon de produire de l'électricité, eh bien, Nicolas Milo va nous expliquer un petit peu ce qui sort de ces cheminées-là.
Eh bien, oui, cette semaine, la Commission de coopération environnementale de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, sortait son rapport qui s'intitule « Les émissions atmosphériques des centrales électriques nord-américaines ». Un rapport qui, dans le fond, nous dit le constat suivant. Dans le bilan continental, le charbon est de loin, mais ô combien de loin, la principale source de dioxyde de soufre, de NOx, de mercure, de gaz carbonique dans le secteur de la production thermique d'électricité. C'est une donnée qu'on savait depuis fort longtemps, étant donné, entre autres, tout le phénomène des pluies acides qu'il y a eu dans les années 80 et dont on a été informé beaucoup à cette époque. Mais ce qui est assez dramatique, c'est qu'on nous dit « Le charbon sert à produire 68% de l'électricité d'origine thermique en Amérique du Nord. » Et cette production-là représente 86% des émissions de soufre et 90% des émissions de NOx, toutes activités confondues pour l'Amérique du Nord.
Partout en Amérique du Nord.
En Amérique du Nord, donc c'est Mexique, Canada, États-Unis. Mmh. Wow. Donc c'est des chiffres qui sont complètement... Si vous voulez vraiment vous plonger dans l'univers des chiffres, je vous invite d'aller voir un article de Louis-Gilles Francard qui est paru dans Le Devoir cette semaine. Je demanderais peut-être par exemple à M. Francard de faire attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup et peut-être un peu trop de chiffres. Donc son article est un petit peu...
Un peu lourd
à lire, mais si vous voulez vraiment avoir des pourcentages, il y en a et c'est loin d'être réjouissant.
On se rappelle par contre que l'ALENA, la CCE, la Commission de coopération environnementale de l'ALENA, nous avait sorti un rapport en juin dernier, en juin 2004, qui nous disait, écoutez, des 50 plus grands pollueurs, en Amérique du Nord, 46 sont des centrales thermiques au charbon. Donc évidemment, c'est extrêmement alarmant de voir qu'il y a une orientation encore sur le charbon. En fait, c'est l'ère préhistorique de l'énergie qui revient en pleine poire ici au Canada. Il faut vraiment s'inquiéter.
Vraiment,
je suis profondément sincère là-dessus.
Et pour ceux qui pensent que c'est mieux de faire de l'électricité à partir du gaz naturel, eh bien non, ce n'est pas mieux. En fait, ça pollue moins, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire. Et il y a beaucoup de gens au Québec, justement, qui se mobilisent présentement contre cette nouvelle centrale dite de cogénération au Québec à Bécancour. C'est une centrale thermique au gaz naturel. Ces gens-là, c'est Acte B. On parle d'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de près de 2% au Québec. Acte B, sur notre site web, vous pouvez aller dessus. Il y a une pétition à signer en ligne. Pardon, faites votre part parce que c'est important. C'est la première fois qu'on a du gaz au Québec.
Terminons sur le charbon. Une très bonne nouvelle, par exemple, qui nous vient de l'État de New York. L'État de New York, qui a traîné en cours des compagnies propriétaires de centrales au charbon, eh bien, ont réussi à s'entendre avec ces compagnies-là pour qu'elles réduisent d'ici 2013 de 70 à 90% de leurs émissions vers l'installation de filtres anti-pollution. Ce qui est un peu dommage, c'est-à-dire pourquoi ils ne le font pas déjà.
Ben oui.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aux États-Unis, ben, au moins si l'administration Bush ne fait rien, eh bien, que par État, on peut gagner des causes et on peut améliorer la qualité de notre air selon ce que le Clean Air Act aux États-Unis devrait favoriser.
Ben, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est de savoir que la technologie, elle existe. Pourquoi que c'est pas toutes les centrales au charbon qui le font? La question.
Pourquoi? Genre de question qu'on n'aurait jamais la réponse. Juste vous rappeler que le gouvernement du Canada, son plan pour Kyoto date de 2002. On est en 2005. Qui peut envoyer un courriel à
Je confirme, 2005.
Ouais, envoyer un courriel à Monsieur Dion, là, parce que je pense qu'ils ne sont pas dedans du tout. Et c'est assez problématique. Mais c'est très important ce que je disais tantôt sur Acte B, cette pétition à signer en ligne. Allez-y, parce que c'est vraiment la première fois au Québec qu'on a une centrale thermique au gaz naturel. Je veux dire, ça n'a pas sa place.